CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
À qui le tour, spéciale émission législative, on continue, on s'intéresse ce soir au canton de Moissac, Castelsarrasin, bref, la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne. Retour en studio avec Kader et ses invités.
Oui, rebonsoir Aurélien et rebonsoir à tous. Quatre candidats, qui de la seconde circonscription du Tarn-et-Garonne qui nous ont rejoints dans nos studios. Anne Bourguignon pour Lutte ouvrière, Frédéric Jean-Avalon pour La France qui ose, Cédric Levieux pour le Parti Pirate et enfin Élodie Montemont, Union Populaire Républicaine. Bonsoir à vous, messieurs, dames, et merci d'avoir accepté l'invitation de CFM à débattre. Il nous faut citer quatre autres candidats qui n'auront pas participé au débat, soit parce qu'ils ne l'ont pas souhaité, soit parce qu'il n'aura pas été possible d'entrer en contact avec eux. Ces quatre candidats sont Sylvia Pinel du Parti Radical de Gauche, députée sortante, Véronique Oharo du Mouvement Écologiste Indépendant, Pierre Verdier de l'Union des Patriotes, et enfin Kevin Fermin de l'Union des Forces Citoyennes Républicaines. Voilà, ceci est dit. Avant de débuter le débat, je vais vous demander à chacun, à chacune d'entre vous de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette campagne politique des législatives et pourquoi, nous dire aussi pourquoi vouloir devenir député de la France. C'est votre cas à tous, certainement. L'ordre de passage étant celui alphabétique de votre nom, c'est à vous, Anne Bourguignon, Lutte ouvrière, de débuter votre présentation. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Donc je m'appelle Anne Bourguignon, j'ai 42 ans. Et je suis employée dans une bibliothèque. Je suis communiste, révolutionnaire, je suis internationaliste, féministe et je suis candidate. Je veux défendre le programme que Nathalie Arthaud a fait connaître aux dernières présidentielles parce qu'il est vital de faire entendre le camp des travailleurs, celui des chômeurs et des retraités, des salariés de supermarchés, des employés de banque, celui des ouvrières et des ouvriers. Qu'on soit livreur de pizza, infirmière, enseignant, maçon, femme de ménage, nous n'avons que nos salaires pour vivre, et bien souvent des salaires de misère. Ce que nous souhaitons, c'est populariser les exigences du monde du travail, et la première de toutes, c'est zéro chômeur. Il faut interdire les licenciements et se répartir le travail entre tous, augmenter les salaires et les pensions à 1800 euros net minimum. Et nous souhaitons mettre en avant l'exigence de contrôler les comptes des grands groupes bancaires et industriels. Et ça, seule une lutte d'ensemble de la classe ouvrière permettra de faire entendre ses exigences.
Merci. Frédéric Jean-Avalon, c'est à vous.
Eh bien, merci tout d'abord de votre invitation à votre antenne, puisque vous êtes le seul média à avoir à vous être risqué au pluralisme démocratique dans son département.
Ce n'est pas un risque, c'est une richesse.
C'est une richesse, mais apparemment c'est un risque pour d'autres médias, hein, d'autres médias que sont notamment la Dépêche du Midi et qui effectivement ne donnent pas l'audience à l'ensemble des candidats. Donc j'ai envie de vous dire que cette attitude vous honore tout particulièrement. Alors j'ai envie de vous dire que à presque 2 fois 20 ans, je suis célibataire et puis père donc d'un jeune adulte et avec un parcours tout aussi atypique que riche. Dans ma vie, effectivement, je me suis beaucoup engagé au service donc des plus démunis avec toujours cette philosophie qui est la mienne, qui est celle effectivement des droits de l'homme. Je suis originaire de Moissac et je me suis très jeune engagé donc dans toutes ces associations avec toujours l'idée et l'envie de co-construire sur les fondements, comme je l'ai dit il y a quelques instants, des droits de l'homme, une société plus juste et plus fraternelle. Toujours, ça a toujours été présent dans mes engagements. C'est notamment aussi l'École de la République et ma formation universitaire en droit, en sciences politiques, dans des domaines très divers et variés, qui m'ont permis d'acquérir une culture très large, mais surtout, fils d'ouvrier, c'est une façon de dire que le jeune des cités que j'ai été a pu briser, effectivement, les plafonds de verre dans lesquels on nous assigne dans ces banlieues, notamment qu'elles soient montalbanaises ou qu'elles soient moissagaises. J'ai envie de dire à tous ces jeunes qu'on peut effectivement s'extraire de cette condition que la naissance impose.
Merci Frédéric Jean-Avalon pour cette présentation. Cédric Levieux, c'est à vous.
Merci pour la parole donnée. Alors je vais faire un petit peu plus court parce que bon, ça sert à rien de forcément aller aussi loin dans ce qu'on propose. Alors moi c'est le vieux Cédric, j'ai 39 ans, un petit peu plus jeune. Alors moi c'est le Parti Pirate. Le Parti Pirate c'est un repère soi-disant de geek technophile. Je correspond au principe hein, puisque je suis simplement informaticien. Pour le reste, en fait, ce qui m'a intéressé, moi, dans le Parti Pirate, c'était l'amour du partage, que ce soit au niveau de la culture, du savoir, c'était aussi une vision humaniste, sociale. Donc oui, je rejoins certains de mes compères féministes et droitlomistes, c'est exactement ce que nous prenons. Mais nous prenons effectivement d'autres choses qu'on va envisager aujourd'hui.
Que vous allez nous expliquer, parce que j'ai cru comprendre que c'était, entre guillemets, l'expression favorite des jeunes, open bar chez Parti Pirate.
Mais non, on va reparler. C'est pas open bar.
Hein, on va reparler. Élodie Montaubon, c'est à vous.
Eh bien, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Déjà, merci de votre invitation de la part de CFM. Même si j'ai une petite remarque à faire à ce sujet sur l'organisation des débats, avec le fait que ce soit scindé en deux groupes, on a quand même clairement senti une volonté de Ligue 1, Ligue 2, c'est-à-dire grand candidat, petit candidat. Bon, ceci dit,
ce n'était pas du tout dans l'esprit de CFM Radio que de hiérarchiser en tout cas les groupes.
Allez, ceci dit, je vous remercie de l'invitation et c'est avec plaisir que je participe à ce débat ce soir. Donc moi, très brièvement, pour me présenter, je m'appelle Élodie Montaubon, j'ai 34 ans, je suis mariée, je suis contrôleuse des finances. Alors mon parcours pour m'intéresser à la politique, eh bien, je m'y suis intéressée quand j'ai compris qu'on nous avait vraiment volé notre démocratie, notamment en 2005. Avec le fameux, trop fameux, j'ai envie de dire, référendum auquel les Français avaient voté non à 55%, et puis le traité de Lisbonne qui en découlera malgré tout. Donc je me suis intéressée, j'ai connu l'UPR, donc l'Union Populaire Républicaine, par le biais notamment des conférences de François Asselineau, son président et fondateur. Et j'ai très vite compris, en écoutant ces conférences, en allant sur upr.fr, en m'intéressant, que l'UPR serait le seul parti qui pourrait redonner à la France et sa souveraineté et son indépendance, notamment donnant beaucoup plus de pouvoir aux citoyens. Et c'est le seul parti qui s'engage à réaliser le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN.
Merci Élodie Montaubon. Écoutez, alors je vais vous, nous allons aborder avec vous ce soir plusieurs chapitres. Le chapitre de la défiance du citoyen envers le personnel politique, le pouvoir politique, plus généralement l'emploi et l'économie. Vous nous direz ce que vous proposez pour faire en sorte que l'emploi soit mieux partagé ici sur les territoires tarn-et-garonnais, qu'il soit moins important, l'emploi et l'économie, donc entre une deuxième partie, et enfin la sécurité et l'environnement. Vous aurez en fin de débat une carte blanche où vous pourrez exprimer soit vos priorités, enfin vous aurez carte blanche pour dire ce que vous souhaitez pour illustrer votre candidature. Je vous propose de passer sur les Français et la politique, la méfiance des Français, toujours plus importante à l'égard des hommes politiques, de nos institutions. Vous êtes jeune en politique, pour la plupart sans mandat politique. L'abstention augmente et le vote devient plus une sanction finalement qu'une réelle adhésion à une vision de la société ou à des projets. Que pensez-vous en tant que député pouvoir apporter à la politique française pour améliorer le sentiment de confiance des Français à son encontre, qu'apportera finalement votre engagement, votre place à l'Assemblée nationale si vous êtes élu par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent? C'est à vous, Frédéric Charin-Vallon.
Eh bien, merci. Donc, tout d'abord, effectivement, vous l'avez bien souligné, nous sommes dans une véritable démocratie, donc, de l'abstention. Et puis, maintenant, du vote blanc, il y a une défiance majeure à l'égard, effectivement, du politique, puisqu'effectivement, la politique, théoriquement, devrait être quelque chose de beau, de noble, puisque la politique, c'est la gestion de la cité. Forcé de constater aujourd'hui qu'il s'agit davantage de politique politicienne, de jeu effectivement d'étiquette politique et une déconnexion totale effectivement avec les attentes de nos concitoyens. On peut s'apercevoir dans cette campagne électorale que beaucoup effectivement en politique recherchent davantage les étiquettes. Ainsi on pourra voir, pour ne parler de ce qui était en première partie de Monsieur Albug qui se dit être le candidat centriste, ce qui n'en est rien, Madame Pinel qui se met être une candidate en marche mais qui en réalité est la candidate qui ne roule que pour elle-même et que pour une aristocratie effectivement politique bien établie dans notre département. Alors je crois que face à cette défiance aujourd'hui, il y a aujourd'hui la volonté de nos concitoyens de balayer l'ensemble d'un système, parce que je crois qu'il y a une véritable révolution démocratique qui est en marche, c'est le cas de le dire, parce que nous, avec la France qui ose, nous voulons effectivement non pas la République en marche, mais une République qui marche. Une République qui marche pour tous et pour chacun, qui s'occupe effectivement de la France des oubliés et de la France des périphéries. Voilà effectivement au préalable ce que je pouvais dire sur la question donc de la défiance du politique. Sachez qu'avec la France qui ose, nous souhaitons une moralisation de la vie politique et de la vie publique. Nous avons d'ailleurs signé une charte éthique en 10 points, puisque c'est l'une des attentes majeures donc de nos concitoyens. Ils veulent effectivement des députés qui ne s'occupent que d'eux. Et quand on voit effectivement la majorité des candidats, donc d'un grand candidat, on s'aperçoit qu'ils ont un cumul de mandats considérable. Et finalement, comme je le disais mardi en débattant avec les agriculteurs à la Chambre d'agriculture, à vouloir être partout, on finit par être nulle part.
Merci. Frédéric Jean Avalon. Anne Bourguignon, c'est à vous. Est-ce que les mesures, les annonces qui ont été faites par le garde des Sceaux sur la moralisation de la vie politique sont de nature à vous, finalement, vous satisfaire un tout petit peu, je n'ose de dire, vous satisfaire complètement?
Non, absolument pas. Je pense que pour aller jusqu'au bout d'une moralisation de la vie politique, il aurait fallu s'en prendre, prendre des mesures sur les salaires. Sur la révocabilité des élus, sur les frais des parlementaires, sur voilà. Mais surtout, je pense que le véritable problème, si on parle de la confiance des citoyens dans le pouvoir politique, je crois que la réalité, c'est qu'on soit élu ou non à l'Assemblée, c'est pas là que se trouve le vrai pouvoir. Et que le vrai pouvoir, il n'est pas entre les mains du personnel politique. Alors, ils sont...
Richard Blanco, votre collègue sur la première, votre camarade sur la première circonscription, lui disait finalement que peu importe s'il était élu ou pas, l'idée.
Non, je pense pas que c'est ce qu'il ait dit. Il n'a pas dit que c'était peu importe.
Peu importe, mais en tout cas. Et
je suis pas sûr que ce soit le débat le plus, certes, la partie la plus notre point de vue. Excusez-moi, mais je pense que la discussion elle est plus sur où se situe le vrai pouvoir. Et le vrai pouvoir, il n'est pas à l'Assemblée. Quand des mesures sont mises en avant par les gouvernements, que la rue proteste, ils sont capables de mettre du 49-3. Et derrière, la nécessité à laquelle ils répondent, c'est pas celle de la population, c'est pas celle du monde du travail. Excusez-moi, j'ai pas tout à fait terminé. Le vrai pouvoir, il est concentré dans les mains des grands groupes bancaires et industriels. Il est concentré dans les mains de ceux que nous n'élisons jamais. Personne n'a élu le conseil d'administration d'EDF-GDF, qui a augmenté en 10 ans de 37% les frais de fourniture d'électricité. On ne vote pas pour les prix de la santé, du logement, pour les besoins vitaux de la population. Et ce pouvoir-là, il nous échappe complètement. Nathalie, pendant la campagne, a parlé a parlé de nombreuses fois de la Guyane pendant les présidentielles, qui montrait ce que pouvait être l'exercice du pouvoir, d'un pouvoir exercé par les travailleurs. Ils ont obtenu en un mois de grève 4 millions d'investissements par l'État dans cette île.
Ils étaient légitimes, c'était légitime.
Est-ce que les travailleurs en lutte sont légitimes? Bien
non,
entendu.
Non. Les 4 millions d'euros qui ont été mis sur la table, est-ce qu'ils étaient légitimes?
Visiblement, il y a quand même des endroits où l'électricité n'est pas installée. C'est-à-dire qu'on arrive à un coin de l'île à faire décoller des fusées, ce qui est quand même, d'un point de vue technologique et scientifique, quelque chose qu'on peut saluer et qui devrait être porteur de progrès pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pas le cas. À l'autre bout de l'île, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas d'électricité toute la journée pour étudier ou pour ne serait-ce que remplir les tâches de la vie quotidienne. Et ça, c'est pas le gouvernement qui le fera. C'est pas une bonne loi qui le fera. Si la population n'exerce pas son pouvoir, et son pouvoir, c'est celui de stopper les machines. Il est là, le pouvoir.
Alors moi, pour rebondir sur ce que disait Madame Bourguignon, à l'UPER, il y a longtemps qu'on a compris qu'effectivement, c'était pas les élus qui avaient le pouvoir. Pour nous, on a bien compris que le pouvoir, il se situe à Bruxelles, à l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier point.
Pouvoir pour Anne Bourguignon aussi, c'est le grand capital, hein, c'est ça?
Bruxelles, ce sont les mêmes que ceux dans les assemblées ici.
Les
grands trusts européens sont les mêmes que les grands trusts français ou internationaux. Je crois qu'il n'y a pas de frontières pour le capitalisme.
Élodie Montemont, on poursuit.
Donc en fait, oui, à l'Union européenne, on est bien d'accord, il y a quand même certaines incointances avec la Commission européenne et les grands groupes aux intérêts financiers bien connus. Encore une chose, pour revenir un peu sur cette idée de moralisation de la vie publique. Bon, moi, le terme moralisation, je suis pas forcément, on va dire, fan.
Non.
Vous savez, penser un peu au bien, au mal. Non, je pense qu'une éthique, tout simplement, politique, je préfère le terme. Il est vrai qu'entre le débat, on va dire, aux présidentielles et aux législatives, il est complètement pourri. On a un débat public pourri par les affaires des uns et des autres. Nous, à l'UPR, on veut redonner plus de démocratie aux gens. Pour ça, on a des mesures fortes et concrètes qui, pour nous, sont des évidences. Par exemple, c'est la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, c'est-à-dire un vote blanc qui peut être révocatoire. Donc, à une élection, si le vote blanc arrive majoritaire, tous les candidats présents à cette élection sont gentiment remerciés. Et comme ça, le peuple peut signifier qu'il n'en veut plus. La deuxième chose, c'est la mise en place des référendums d'initiative populaire, pour que les citoyens puissent eux-mêmes décider d'amener sur le débat public certains sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. On a également l'obligation pour tous les élus et à tous les niveaux d'avoir un casier judiciaire vierge. C'est par exemple le cas de tous les candidats présentés à l'UPR. Hein, on constate trop souvent que pour bon nombre de professions, infirmiers, avocats, même professeurs des écoles, un casier judiciaire vierge est exigé, mais pas pour certains mandats d'élus. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important, notamment ici pour parler de l'Assemblée nationale, puisqu'on se présente à la députation, c'est l'instauration d'un quorum de 60% de présence des députés à l'Assemblée nationale lorsque l'on vote les lois. Je pense que beaucoup de nos concitoyens sont écœurés et révoltés du spectacle, mais affligeant, de lois qui sont votées à 10 en catimini à minuit 30 à l'Assemblée. Enfin, il y a quelques autres mesures, je vais passer assez rapidement pour pas non plus trop traîner. Mais enfin, ça serait interdire également la procédure du Congrès, hein, cette procédure qui a permis notamment de faire entrer le traité de Lisbonne dans la Constitution. Nous, on pense que la Constitution, elle appartient aux citoyens, donc on la change uniquement par référendum. Et puis enfin, ça serait transformer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle, avec des magistrats professionnels qui soient élus. Et puis ce serait également interdire les machines à voter électroniques et inscrire dans la Constitution que le scrutin est manuel et secret.
Merci Élodie Montemont. Cédric Levieux, c'est à vous.
Alors c'est un peu difficile de répondre après tout ça, parce qu'effectivement il y a plein de pistes qui sont envisagées et qui ont été discutées ici. Alors nous, les nôtres, c'est simple, c'est effectivement, on est tous conscients de cette confiscation par une démocratie représentative. Donc en fait, on élit pendant 5 ans un représentant, et ce représentant, plutôt que de voter des lois pour nous, il va voter des lois en accord avec son parti. Alors, effectivement, on a tendance à choisir par rapport à un parti, mais tout ne nous plaît pas forcément dans les propositions, et on doit tout prendre. C'est le problème de la démocratie représentative. Nous, ce qu'on prône au sein du Parti Pirate, c'est ce qu'on appelle la démocratie liquide. Alors ça, c'est l'une des alternatives qu'on propose, parce que on peut pas tout changer et dire, bon, bah, demain, c'est démocratie liquide, voilà, on met en place. Effectivement, on aimerait d'abord commencer par la consultation systématique des citoyens pour qu'ils puissent donner leurs avis et que le député soit effectivement le représentant de, on va pas dire c'est des sondages, mais des consultations qui sont vraiment un volume qui permet de dire les gens veulent véritablement ça. Après, la démocratie liquide, c'est plus en fait le fait de dire bah je fais confiance à une personne sur ce sujet-là, parce qu'en fait vous pouvez être humaniste, puis en même temps vous pouvez aimer l'entreprise et arriver à dire bah pour ces questions humanistes je préfère donner mon pouvoir de vote, ou même voter, continuer à voter moi-même. Préfère donner mon pouvoir de vote à telle personne, ou dire sur ce sujet-là, je vais prendre telle autre personne parce que elle s'y connaît mieux, moi je m'y connais moins. C'est un mi-chemin entre ce que prônent certains, ce qu'on appelle la démocratie directe, et puis la démocratie représentative qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est qu'un des pans qu'on peut présenter au niveau pirate de ce que peut être la démocratie de demain. Alors, après, il y a effectivement ce débat autour aussi, donc soit du casier vierge pour la politique. À titre personnel, je peux vous dire que je suis contre, pas que je sois contre le fait qu'on ait des personnes qui soient intègres, mais il faut bien se rendre compte qu'une personne peut avoir un vécu. Ce vécu, ça peut être notamment de la lutte. On peut penser que les personnes qui sont arrêtées durant certaines manifestations finissent avec un casier judiciaire parce qu'ils ont lutté contre la police, parce qu'ils ont lutté contre le pouvoir en place. Ces personnes-là se retrouveraient avec un casier judiciaire qui ne serait plus vierge. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous n'avez plus accès à la vie politique. José Bové, qui a détruit Deschamps, il n'a pas un casier judiciaire vierge. Ah, c'est qu'on ait un certain nombre de... de lois qui font que... suivant les fautes qu'on ait commises, on n'ait plus accès à la vie politique et à certains postes, ça peut se concevoir, mais que le casier judiciaire vierge en lui-même soit une condition sine qua non, c'est trop dangereux. Parce qu'en plus de ça, si vous arrivez à avoir des politiques qui veulent durcir, ils ont qu'à mettre des lois supplémentaires pour s'appuyer sur ce genre de mécanisme pour ne plus avoir d'opposants. C'est un mécanisme très dangereux.
Merci Cédric Levieux. Donc nous sommes avec Anne Bourguignon de Lutte Ouvrière, Frédéric Jean-Avalon de La France qui ose, Cédric Levieux du Parti Pirate, Élodie Montemont de l'Union Populaire Républicaine. On passait au chapitre travail et économie. Vous avez certainement lu vent de la réforme du travail qui est en cours, va s'échelonner sur plusieurs étapes. Alors nous avons la négociation à la carte dans les entreprises, qui attribue une place centrale à la négociation collective d'entreprise en élargissant ses champs de compétences, le barème des prud'hommes qui va s'instaurer avec un référentiel, le référendum à l'initiative de l'employeur dans l'entreprise, etc., redéfinir la place des branches, tout un tas de mesures qui sont destinés à améliorer la situation de l'emploi en France et dans le Tarn-et-Garonne. Anne Bourguignon, est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens selon vous? Est-ce que ça permettra de décloisonner la richesse peut-être?
Bien sûr que non.
Non.
C'est une série de mesures qui vont donner encore et toujours plus de liberté à des patrons qui en ont déjà énormément. Mais je crois que c'est un petit bout de lorgnette, même si c'est quelque chose de très grave.
Rien n'a marché jusqu'à présent. Est-ce que vous ne pensez pas que cette réforme...
J'aimerais bien illustrer en fait la question de l'économie par... en vous parlant d'un grand groupe comme Sanofi, par exemple, qui illustre assez bien... comment ces gens-là pleurent la bouche pleine, gavée de profits. On nous rabâche du soir au matin que ce sont effectivement sur les travailleurs qu'il va falloir rendre de la compétitivité aux entreprises en réduisant les salaires, en réduisant la possibilité de se soigner, en réduisant le nombre de personnes à travailler. Or, on s'aperçoit que les grands groupes bancaires et industriels, cette année au CAC 40, ont fait 70 milliards de profits. Et un groupe comme Sanofi, en 2016, au premier trimestre, ils ont fait 1,65 milliard de bénéfices. Il fait partie des grands groupes qui ont à la fois une revendication de libre entreprise, il faut surtout pas entraver par des lois, le code du travail, etc. Et en même temps, eux, ils ont leur profit garanti deux fois par l'État. Une première fois parce que, comme grand groupe industriel pharmaceutique, ben, la sécurité sociale paye les médicaments. Et une deuxième fois parce que l'État, toujours, va renflouer à coup de primes sur les bas salaires, à coup de crédit impôt compétitivité emploi. En 2014, pour Sanofi, ça représentait 151 millions d'euros. Et entre 2008 et 2015, ce même groupe Sanofi licenciait plus de 5300 personnes. Donc je pense que... également, quand même, ces profits ne sont pas réinvestis dans la production. C'est-à-dire qu'en plus, ils alimentent un système spéculatif qui explose de crise en crise à intervalles réguliers. On a vu en 2008 les retentissements que ça peut avoir à l'échelle de la planète. Et à Lutte Ouvrière, je crois que Nathalie Arthaud a bien développé pendant la campagne qu'il fallait exproprier ces capitalistes. Il faut leur retirer les usines et les banques des mains. Ils ne maîtrisent pas leur système. Il y a quelques mois, le magazine Forbes calculait que 8 personnes ont une fortune équivalente à ce que possède la moitié la plus pauvre de l'humanité. Voilà ce que l'économie capitaliste est capable d'entraîner. Donc ce que nous revendiquons, c'est que ce sont les travailleurs qui font tout tourner dans la société. Et c'est à nous de décider ce qu'on doit produire et comment il faut le produire. Il faut que nous produisions ce qui est nécessaire à la population, des logements, des écoles, des hôpitaux. Et ça représenterait des milliers, des milliers, des milliers d'emplois. Et ça permettrait de se répartir le travail entre tous. Parce qu'on peut pas supporter qu'il y ait des... Actuellement, on est à 10 millions de chômeurs rien qu'en France. Et de l'autre côté, il y a des travailleurs qui se retrouvent dans des conditions d'exploitation toujours plus accrues. Merci.
Élodie Montauban, c'est à vous.
Oui, donc par rapport à ça, effectivement, moi déjà j'aimerais rebondir sur le terme que vous avez employé, je pense réforme du travail, du droit du travail. Non, pour moi c'est pas une réforme, ça s'appelle la destruction du droit du travail. C'est une réforme étant censée peut-être améliorer. Donc bon, bah là on est dans la continuité hein, de la part du gouvernement, de ce qui a été fait précédemment. On a vu droit à la loi El Khomri, à la loi Macron. Là, c'est la continuité, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? C'est l'application des grandes orientations de politique économique, c'est la feuille de route donnée et dictée par Bruxelles chaque année aux États membres. Alors cette année, les GOP nous ont été transmises, hein, bien sûr, comme tous les ans. Elles l'ont été pendant l'élection présidentielle, donc c'est dire si le président est important. C'est décidé, peu importe qui allait être président, on a les GOP, on les applique, donc c'est ce qui se passe. Hein. Donc nous, à l'UPR, là-dessus... Clairement, on en revient à la sortie de l'Union européenne.
Oui, l'Union européenne, de l'Union européenne, c'est
tout
votre...
Tout à fait. Ah mais c'est essentiel. On ne peut pas agir, par exemple, pour reprendre un peu, rebondir sur ce que disait Madame Bourguignon juste avant, on parle sans arrêt de dévaluation interne, c'est-à-dire ce dumping social qui est fait en permanence. Aujourd'hui, on ne peut faire que ça puisqu'on n'a pas notre propre monnaie. Si on avait une monnaie, c'est-à-dire le franc, et qu'on pouvait justement jouer sur une dévaluation du franc, etc., ça serait quand même très différent. Aujourd'hui, on est bloqué avec une monnaie trop forte. Retourner au franc, ce qui sera un nouveau franc, hein, pas l'ancien franc, il y aura à peu près une dépréciation de 10%, ça serait directement 1 à 2 millions de chômeurs en moins.
Les Français s'en contre, Mme Montauban, la sortie de l'euro et la sortie...
Ah, mais après, j'apporte cette idée-là au débat. Ils sont contre, faut savoir qu'à l'UPR, ça fait 10 ans que ça existe, on a été médiatisé 2 semaines. En 2 semaines d'accès aux grands médias, on a fait 0,9%. Je pense que c'est pas un si mauvais score. Quant à dire qu'ils sont contre, je pense que justement, il faut apporter encore ce discours-là et l'expliquer pour voir si vraiment les gens sont contre.
Vous êtes d'accord sur le fait de dire que l'UPR, on l'entend parler que lorsqu'il y a la présidentielle...
Et juste une chose, quand les Français s'expriment par référendum et qu'ils disent qu'ils sont contre, l'occurrence, ils ont quand même un traité. Voilà. Donc, je vous écoute pour votre question.
Non, ma question c'était de savoir si ce que vous, en fait, c'était à vous de répondre sur vos projets finalement sur l'impôt. Est-ce que sortir de l'euro et sortir de l'Europe suffirait à
Déjà il y a ce retour au franc comme je vous ai expliqué. Ensuite, par la force des choses, on va dénoncer l'article 63 du TFUE, le traité de fonctionnement sur l'Union européenne. Donc pour mettre fin à la libre circulation des capitaux, parce qu'aujourd'hui on peut essayer de lutter contre des délocalisations, c'est purement et simplement interdit par l'Union européenne.
Oui.
Donc sans ça, c'est impossible. Donc les grandes délocalisations vont continuer. D'ailleurs, elles existent depuis qu'on est rentré sous l'ère du traité de Maastricht. Ensuite, c'est également l'abrogation de la directive sur les travailleurs détachés. Ça représente 300 000 à 400 000 emplois en France. Et puis après, nous, on porte aussi des grands projets, comme porter le SMIC à 1 300 euros net. Et puis pour les TPE et PME plus particulièrement, hein, puisque c'est quand même un tissu très très ancré en France, c'est beaucoup d'aides pour favoriser les CDI, limiter les CDD dans le temps, la suppression du RSI également, chose très importante. Et puis alors bien sûr, pour nous, ça serait supprimer directement la loi Macron, la loi El Khomri, qui d'ailleurs n'ont que le nom, hein, puisque ce sont l'application des GOP, je le répète.
Frédéric Jean-Avalon, en termes d'emploi et d'économie.
Alors merci à vous. Effectivement, l'emploi effectivement doit être soutenu et puis surtout les travailleurs doivent être aussi défendus. Alors ça peut effectivement paraître curieux pour quelqu'un qui a été classé divers droite de soutenir les travailleurs, puisqu'on voit effectivement beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations de précarité. Nous sommes dans une société qui exploite.
Vous la réfutez cette étiquette divers droite?
Je la réfute, d'accord, parce que c'est une nuance qui a été imposée par le préfet, effectivement, de Tarn-et-Garonne. Vous savez, effectivement, comment les choses sont faites. Puisqu'effectivement, la France qui ose, c'est un mouvement qui rassemble des individus du centre, de la droite, de la gauche, y compris des écologistes. On voit bien, effectivement, que les grands corps de l'État continuent à rester, effectivement, sur ces étiquettes. Donc, concernant l'emploi, effectivement, les travailleurs ont à être effectivement soutenus et à être également protégés dans leur activité professionnelle et pouvoir vivre dignement de leur travail. On oublie, quand on parle de l'emploi, qu'il y a des gisements entiers d'emplois qui ne sont pas exploités, qui sont laissés à l'abandon. Il y a en France 12 millions de personnes hospitalisées en 2012, 3 millions d'octogénaires, 200 000 centenaires d'ici 2030. Je vous donne quelques chiffres. 3 500 000 chômeurs et non pas 10 millions. 1 million de personnes lourdement handicapées, 10 millions d'élèves à aider scolairement, Et ces statistiques prouvent le besoin aigu de postes d'accompagnement et de postes d'éducateurs. Donc, avant effectivement de toucher au code du travail, à toutes ces choses-là, il convient effectivement de régénérer et de créer de nouveaux emplois dans ces domaines effectivement qui sont pourvoyeurs d'activités, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Certaines activités pourraient se développer à un rythme plus soutenu. On pense notamment à la création d'emplois, donc dans le domaine agricole avec les revenus complémentaires, la stimulation des ressourceries. Vous voyez qu'il y a effectivement une possibilité, avant tout, avant de toucher au code du travail, de créer une dynamique du travail. Parce que, finalement, on va finir par apeurer, j'ai envie de dire, la population. On leur dit, on va toucher au code du travail, mais de notre côté, on ne crée pas d'emploi. Créons des emplois nouveaux et ensuite, voyons ce que nous pouvons faire, effectivement, en matière d'emploi et en matière de souplesse d'emploi. On prend, effectivement, j'ai envie de dire, les choses à l'envers.
Cédric Levieux.
Les choses à l'envers, c'est un bon terme pour rebondir. Alors, c'est, en fait... On écoute ce qui se dit autour de cette table et tout le monde parle de retour à l'emploi, l'emploi, les travailleurs, l'emploi, les travailleurs. Oui, c'est important pour l'économie, hein, l'emploi, les travailleurs. Non, en fait, ce qui est important pour l'économie, c'est que les gens aient des sous. Parce que si on reste effectivement dans une économie capitaliste, du moins, si on revient dans une économie capitaliste, tout simplement, il faut avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut soit payer des salaires, soit que les clients aient des sous. En fait, aujourd'hui, il y a un autre problème qui se pose et moi, au sein du Parti Pirate, je suis dans un courant qui prône effectivement non pas le retour au plein emploi, parce qu'on estime ça impossible au final. C'est si on a de plus en plus de chômeurs, c'est parce qu'il y a l'automatisation, la robotisation. Aujourd'hui, quand on nous dit ça créera de nouveaux emplois, c'est faux. C'est 46% des emplois en France qui sont menacés par la robotisation, par l'automatisation. Donc à partir de ce moment-là, il faut penser à d'autres alternatives. Donc mon camarade de la France qui ose qui dit effectivement il y a des personnes âgées, il y a des personnes malades, il y a des enfants. En fait, on a le domaine du social. Alors soit on crée des emplois, soit on considère qu'il y a un gisement de bénévolat, qu'il y a des personnes qui aujourd'hui font marcher une économie sociale qui ne rentre pas dans le PIB, qu'il faut prendre en compte, en considération, et que on peut dire, bah, si les gens travaillaient moins, juste moins, on aurait d'un côté une meilleure répartition du travail, et de l'autre côté, des gens qui s'investiraient plus, qui se sentiraient mieux, qui auraient une meilleure santé, qui auraient moins d'impact sur les troubles issus du travail et donc cette dépression des personnes qu'on effectivement pressurise, hein, parce que quand on dit il y a des chômeurs et puis on va passer le temps de travail de 35 à 39, on va demander aux personnes âgées de travailler plus longtemps, comment en rajoutant ces heures de travail on arrive à créer des emplois? C'est un petit peu antinomique. Donc à cela, il reste une dernière alternative. Alors effectivement, tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde s'est moqué de lui, hein, quand Benoît Hamon a parlé du revenu de base. Nous, c'est un processus dont on parle et on revendique depuis 2012, en disant, bah si, c'est une alternative, c'est on peut changer les mécanismes d'attribution et de redistribution de la richesse. Effectivement, quand on parle aussi de grande capitale, bah, quand on remplace des employés par des robots, vous avez de la cotisation sociale qui disparaît, vous avez des emplois qui disparaissent. Bah, à un moment donné, même des grands capitalistes et des grands détenteurs de fortune disent il faut taxer les robots.
Merci Cédric Levieux. Anne Bourguignon, Lutte Ouvrière, Frédéric Jean-Vallon de La France qui ose, Cédric Levieux, donc le Parti Pirate, et Élodie Montemont sont sur CFM Radio pour le débat. Deuxième circonscription, on se retrouve tout de suite après une page, une minute de publicité.
CFM à Moissac, 90.7.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 21e Festival des Voix du 15 au 25 juin. Retrouvez des artistes prestigieux au cœur du patrimoine de Moissac et des 11 communes qui y participent, avec Calypso Rose, Noah, Douline, Lucar Bogast et aussi Barbara Fortuna ou encore New Gospel Family. Une trentaine d'artistes à Moissac, Boudou, Durfort, Lisac, Puy Cornet et La Française. Pensez à réserver vos places pour le 21e Festival des Voix, des Lieux, des Mondes du 15 au 25 juin à Moissac. Infos et réservations sur moissac-culture.fr.
Je viens de voir les voisins. Ils sont comblés.
Comment ça, comblés ?
Eh bien, avec une simple pièce d'un euro, ils ont récupéré une pièce à vivre en isolant leur comble.
Une pièce d'un euro pour une nouvelle pièce à vivre, c'est cadeau.
Grâce au programme Solidarité énergétique pour la rénovation, une pièce de 1 euro vous suffira pour isoler vos combles. Rien d'autre à payer. 33 cm d'épaisseur de laine de verre, iso-vert, sans aucune limite de surface et jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Tarn-et-Garonne Isolation, une entreprise familiale certifiée RGE Calibat, ZA de la Mouscane à Montèche.
CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7. 90.7.
Retour sur CFM Radio avec les législatives, bien sûr, le 11 juin prochain, c'est-à-dire dimanche, vous voterez pour le premier tour des élections législatives. Aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième partie, second débat de la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne. Une question toute simple à nos candidats. Anne Bourguignon, Lutte ouvrière, Frédéric Jean Vallon, La France qui ose, Cédric Levieux, Parti pirate, Élodie Montemont, Union populaire républicaine. Que représente l'écologie dans votre démarche, monsieur Jean Vallon?
Alors merci, c'est un effectivement un sujet majeur qui n'est pas abordé dans cette campagne puisque c'est effectivement le parent pauvre. Je prendrai juste un exemple qui est particulièrement criant dans notre département, c'est notamment la question de la ligne à grande vitesse qui porte véritablement un grand coup effectivement à l'environnement et notamment à l'écologie. Un projet de 10 milliards d'euros, c'est tout à fait ça, qui va impacter notre territoire. La France qui ose défend la République des territoires. Nous nous sommes attachés à la question de la ruralité et il n'est pas question pour nous et pour moi en Tarn-et-Garonne de soutenir un tel projet donc qui viendra occasionner une véritable balafre sur notre territoire. Alors concernant l'écologie, il y a effectivement un travail qui n'a pas été fait, un travail en concertation effectivement avec tous les acteurs. Il y a dans le domaine de l'écologie bon nombre d'emplois également qui pourraient être créés dans ce domaine.
Anne Bourguignon, sur l'écologie.
Alors moi, je vais commencer par dire que je suis communiste, donc que je suis écologiste.
Ça va de pair ?
Oui, je crois que ça va de pair, parce que la seule façon de réellement maîtriser la façon dont on produit les marchandises, de garantir la sécurité des travailleurs, des riverains, aussi des consommateurs, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est de retirer les outils de production des mains des capitalistes. Non, on dit abolir les moyens de propriété privée de production. Nathalie a eu l'occasion de le dire, mais seul le contrôle des travailleurs et de la population permettrait d'éviter les accidents industriels.
Ça
veut dire l'ouverture des livres de compte. Mmh. Ça veut dire s'assurer que le profit n'est pas mis en priorité au lieu de la sécurité. Le nombre d'usines qui sont... On a eu une catastrophe à ZDF quand même ici, il n'y a pas très très longtemps. Il y a des centrales nucléaires pas très loin d'ici. On sait que les intérimaires qui s'occupent de nettoyer et d'assurer le contrôle et la sécurité des centrales, par exemple, sont des travailleurs qui n'ont pas de formation en continu, à qui on ne donne pas les moyens de s'assurer d'avoir des visites auprès de la médecine du travail.
Mais j'aimerais juste sont attachés au nucléaire, l'énergie nucléaire.
Oui, mais hein?
Ça vous pose pas de problème, ça, sur eux.
Mais je crois que la question, elle est pas, elle est de contrôler ce qui se passe. Tant qu'on ne saura pas quel risque on prend et comment on peut faire et ce qu'il faut investir pour garantir cette sécurité-là, on ne pourra pas le dire. Et regardez que ce soit la COP21 ou que ce soit le Grenelle de l'environnement. La taxe carbone, par exemple, les plus gros pollueurs en sont exonérés. Les industries de la pétrochimie ne payent pas cette taxe carbone. Et le droit à polluer, ils en font de la spéculation dessus. Enfin, c'est quand même pas sérieux si on veut vraiment permettre à la population et aux travailleurs et aux gens qui vivent autour, parce qu'il faut avoir de l'argent pour vivre loin d'un site industriel dangereux. Il faut avoir de l'argent pour vivre loin de champs où l'épandage se fait avec... Là, on aurait les moyens. On est très avancé scientifiquement et technologiquement. On pourrait produire sans risque. Mais le problème, c'est ça coûte de l'argent. Et l'argent, il est dans les mains des capitalistes. Et ils ne le lâcheront pas comme ça. Donc oui, il faudra se bagarrer. Il faudra que tous ceux qui sont mis en danger, donc l'ensemble de la population, exigent d'avoir le contrôle de ces façons de produire et de la sécurité. Et j'aimerais juste ajouter une petite chose. C'est également le... Il serait temps de réfléchir à ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup de choses. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de canons. Je suis pas sûre que la population ait besoin de porte-avions à l'envi. Je suis pas sûre qu'il faille construire des rafales. On a besoin d'écoles, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de routes, on a besoin de régies d'eau qui ne fuient pas de partout. Voilà. Et ça, c'est peut-être un peu moins polluant que bien d'autres industries.
Cédric Levieux, votre position en partie pirate sur l'écologie?
Ah bah, une chose qu'on n'avait pas dit, c'est que effectivement les députés sont à un niveau national. Donc on aura tendance à penser que le parti pirate, on est un parti de geek, technophile, on aime ce genre de choses. Moi je suis informaticien, donc oui, j'aime la technique, mais j'aime aussi le travail du bois, j'aime ce genre de choses. Donc on peut allier différents domaines qui se marient et en fait la plupart du temps, la plupart des pirates sont effectivement en zone urbaine et parler de temps en temps écologie, ça peut faire du bien. Je voulais dire à un moment donné que non, le député il va pas s'occuper vraiment du Tarn-et-Garonne parce que c'est le député s'occupe de la France.
Tout à fait.
Pas spécialement que du Tarn-et-Garonne, mais il se trouve que dans le Tarn-et-Garonne, on a et des champs et des centrales nucléaires. Donc effectivement, je vais rejoindre un certain nombre de mes camarades sur le sujet. Avec quand même deux belles tours qui fabriquent des nuages, de jolis petits nuages au-dessus et qui changent bien la météo au niveau de Valence d'Agen. Hein, on peut voir les nuages qui sont coupés en deux. Non, l'écologie, on a des choses au parti pirate au niveau de l'écologie. On a effectivement, on demande une transition au niveau de l'énergie nucléaire. On est pour l'autoproduction. Il y a des choses à faire pour que on puisse se réapproprier à les moyens de production de l'énergie. Ça, aujourd'hui, effectivement, on a les moyens de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Il y a de l'éolien. Alors là, il y a d'autres qui vont hurler sur le fait que ça va entacher...
Le photovoltaïque et le photoluminescent également.
Oui, mais après, il n'y a pas de solution miracle sur la partie énergétique. C'est-à-dire que si on parle, l'un des gros problèmes du nucléaire, c'est notamment qu'on va chercher l'uranium ailleurs. Donc c'est si on n'aborde jamais la sécurité, la partie sur la sécurité, piller les pays étrangers pour aller chercher de l'uranium, c'est une chose. Le problème du photovoltaïque, c'est qu'il faut se nourrir en terres rares et que les terres rares aujourd'hui, c'est d'un côté la Chine qui les a, de l'autre côté l'Australie. On peut aller démolir chez eux si vous voulez, mais bon, on parlait tout à l'heure de bien commun. Oui, les pirates reconnaissent la notion de bien commun. Et on n'a qu'une seule terre, c'est vraiment notre bien commun à nous. Et si on va taper chez le voisin pour récupérer ce qu'il nous faut, ça ne va plus. Parce que à un moment donné, ils voudront peut-être quelque chose qu'on a chez nous. À part notre fromage, on peut trouver aussi d'autres choses. Mais voilà, c'est à un moment donné, il va y avoir de la balance. Le deuxième point, malgré tout, c'est... l'agriculture, et en fait sur l'agriculture, on aimerait effectivement une transition un petit peu plus, alors, pas que sur le bio, mais arriver en fait à accompagner les agriculteurs, puisqu'aujourd'hui quand on parle de bio, les agriculteurs disent aujourd'hui c'est pas possible, ça coûte cher, donc nous, ce qu'on prône, c'est les accompagner pour qu'on ait une transition qui les mette pas à la rue, parce que justement, nous ce qu'on reconnaît, c'est qu'un agriculteur heureux qui produit de la bonne nourriture, ça rend aussi les consommateurs heureux, des risques moindres pour la santé, et en même temps, ça permet de tisser du lien social, de faire vivre une économie locale, et qui est respectueuse, elle aussi, de l'environnement, parce que quand vous consommez local, vous produisez moins de CO2, et vous avez aussi moins les problèmes de délocalisation qui se font au niveau du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire, notamment.
Élodie Montemont.
Eh bien, à l'UPR, nous, l'écologie passe beaucoup par l'agriculture. Je pense que là, ça reprend certaines idées qui ont été dites. Notamment, nous, c'est sortir de la politique agricole commune pour instaurer une politique nationale agricole. Donc déjà, on arrêterait d'être dans une logique de productivité qui est du toujours plus, toujours plus. Donc, pour nous, c'est pas du tout ça. C'est remettre au cœur de l'agriculture de la qualité, favoriser l'agriculture familiale, favoriser d'autres techniques, la permaculture, l'agroforesterie. En revenir à des circuits aussi courts entre le producteur, le consommateur, ce qui favorise notamment aussi l'emploi au niveau local. Après, il y a des mesures qui nous semblent mais essentielles, et en plus de ça, pour la santé et pour l'écologie, c'est interdire les OGM, y compris dans l'alimentation animale, ou encore libérer le commerce des semences anciennes. À l'heure actuelle, la plupart de l'agriculture est faite avec des semences qui sont malades, et en plus, on compte en interdire également le brevetage de nouvelles. On considère que c'est plus possible de breveter des semences qui soient stériles et malades. Il faut également recentrer, je pense, l'agriculture sur sa première mission, qui est de nourrir normalement une population et pas d'aller dans toujours plus de production pour finir par un gaspillage qui est purement inadmissible. Donc à l'UPER, nous, on veut se servir de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire, notamment. Et puis après, quelques autres mesures, notamment la création d'une taxe verte à l'importation pour des produits qui n'auraient pas les mêmes standards économiques et sociaux, qui viendraient de pays tiers. Et puis, ça va être également restreindre au maximum l'utilisation des antibiotiques et des perturbateurs endocriniens, parce que là, ça touche la santé et l'écologie, ça touche vraiment tout le monde. Je pense qu'il est temps de s'interroger sur le monde qu'on va laisser à nos enfants et aux générations à venir.
Merci Élodie Montemont. Je vous propose de passer directement sur votre carte blanche et nous n'aurons pas le temps d'aborder la sécurité. À moins que vous vouliez l'aborder
sur le... Oui, je crois qu'on a des choses à dire Non, mais c'est vrai qu'on a un petit programme.
Bon. Alors, allons-y. Sur la sécurité, Anne Bourguignon, prenez la parole.
Ben oui, parce que je crois qu'il faut... Il faut dire qu'on ne peut être que choqué de ce qui s'est passé.
Essayez d'être synthétique pour que nous ayons le temps de vous donner la carte blanche en fin d'émission. D'accord. Vas-y.
Oui, je pense qu'on ne peut être que choqué des attentats qui se perpétuent. Et je crois qu'on peut l'être quels que soient les pays où ils sont perpétués. Mais répondre à ces actes en renforçant la sécurité policière, ça ne changera rien. On ne pourra jamais mettre un policier derrière chaque personne soupçonnée d'avoir des comportements ou des pensées délictueuses. En revanche, ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Et on ne parle pas d'où viennent ces groupes terroristes. À chaque fois que les guerres impérialistes des États-Unis ou d'autres grandes puissances ont eu besoin de déstabiliser des régions entières, ils n'ont pas hésité à les financer et à les armer, ces groupes, qu'il s'agisse de Daesh, Al-Qaïda ou l'État islamique. Je crois que Richard Blanco en a parlé hier, mais je crois que c'est important de rappeler qu'on sait que maintenant l'État islamique est financé en partie par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et ça gêne pas les États occidentaux qui arrivent encore à disserter sur la nationalité et sur les déchéances de nationalité. Par contre, empêcher les grands groupes comme Total, les grands groupes comme Bouygues, Bolloré, Vinci, d'aller tracter et d'aller faire du commerce avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, là, ils ont moins de scrupules. Et juste pour terminer, au Mali, il y a quand même des fondamentalistes religieux qui tuent par dizaines de milliers tous les ans des civils. L'armée française est présente. Ça fait partie des endroits où une armée impérialiste protège les intérêts des grands capitalistes. Donc faut arrêter l'hypocrisie et il faut arrêter d'agiter des chiffons bleu, blanc, rouge, parce que c'est ça qu'il y a derrière.
Merci. Élodie Montemont.
Oui, rapidement, sur la sécurité, moi j'ai envie de dire à l'UPR, on prône la sortie de l'OTAN, tout simplement parce que l'OTAN nous entraîne dans des guerres qui sont systématiquement illégitimes, mais encore plus illégales au regard du droit international. Et c'est essentiel d'apporter ça dans le débat. C'est clé, c'est pour comprendre aussi tout ce qui se passe au niveau terrorisme. Madame Bourguignon disait que personne n'a jamais abordé le fait que des groupes comme Daesh ou l'État islamique soient financés en partie par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Monsieur François Asselineau l'a fait pendant la campagne présidentielle. D'ailleurs, il a été fortement moqué. Puis maintenant, au final, on se rend compte qu'en fait, c'était tout à fait vrai. Donc voilà, je tenais quand même à dire ça, qu'à l'UPR, on veut également sortir de l'OTAN pour ces raisons-là. Commencer par avoir une diplomatie non alignée et pacifiste. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on deviendrait un État beaucoup plus respectable.
Frédéric Jean Vallone.
Alors merci, j'aborderai la question de la sécurité à travers la question de la justice et de la police. Je dirais que sans sécurité, il n'y a pas effectivement de liberté, et de ce point de vue, la sécurité est le premier des droits de l'homme. Alors effectivement, les Français attendent beaucoup donc sur les questions de sécurité, notamment dans un contexte où la lutte contre le terrorisme appelle des moyens de renseignement conséquents et des actions policières calibrées. une justice réactive et on s'aperçoit effectivement que les magistrats et les policiers donc sont effectivement en première ligne. Alors il n'y a pas de justice sans moyen de juger. La justice française est proche du dépôt de bilan. Il suffit effectivement de se rendre dans les tribunaux pour voir effectivement les conditions qui sont les leurs, les conditions de travail, le nombre de magistrats qui ne sont pas remplacés, le nombre de dossiers effectivement qui ne peuvent être traités. Les tribunaux sont en ruine. Pour certains, il manque effectivement, je le disais, des magistrats. Des peines qui sont non exécutées, des prisons qui sont dans un état indigne. Et toutes ces questions, effectivement, doivent être traitées à travers la question de la justice. Parce que la sécurité, c'est d'abord répondre par une réponse judiciaire qui soit calibrée. Privilégier également dans les questions de sécurité, donc de réponse de la justice, les modes alternatifs de règlement des conflits pour les affaires ordinaires, avec notamment la conciliation et la médiation. Mais surtout, c'est la question de la sécurité de la police. C'est rétablir notamment 500 douaniers qui ont été supprimés par le gouvernement cette année après une perte de 6000 emplois dans nos frontières. Donc il faut également rapprocher la police des citoyens et également remettre en œuvre donc la police de proximité. C'est très court, hein. Voilà, merci.
Très bien. C'est vrai que le vieux.
Alors moi je vais rebondir sur une phrase de Benjamin Franklin à qui on attribue en fait que la personne qui veut renoncer à un peu de liberté pour avoir plus de sécurité n'aura ni l'un ni l'autre. Parce que bon, non, la première des libertés n'est pas la sécurité, la première des libertés de pouvoir faire ce qu'on a envie, d'être dans un état de droit, et c'est pas d'être considéré comme un suspect dès qu'il fait quelque chose. Donc nous, au Parti Pirate, ce qui nous fait peur, pas par le terrorisme, mais au final, les réponses qui sont apportées par les gouvernements, que ce soit, quels que soient les pays, au final, quand on voit les sorties de Theresa May qui veut abroger les droits de l'homme dans son pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme, ça fait juste peur, parce que ça veut dire renoncer à un moment donné au droit de manifester. Ça empêcherait les travailleurs de dire bah non, on n'est pas d'accord sur nos moyens de production, c'est à nous de les gérer, ce serait plus possible. C'est aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, le fait d'être fliqué, c'est pourquoi considérer que tout à chacun est suspect. En revanche, quand j'entends dire que on n'a pas les moyens de mettre un flic derrière chaque personne, si, c'est très clairement ce sur quoi les gouvernements veulent tendre, et c'est ce contre quoi veut se battre le Parti Pirate. Mais ça n'empêche pas, effectivement, tout à l'heure sur le volet écologiste, je vous parlais de l'uranium, mais c'est à un moment donné se rendre compte de quelles sont les sources des problèmes de sécurité. Et oui, à un moment donné, faut se poser les questions et faut aussi se dire qu'il y a des problèmes dans l'éducation, la xénophobie, le fait d'aller dans d'autres pays pour aller piller les richesses qui font que on déstabilise effectivement un certain nombre de pays, mais que à un moment donné, même chez nous, on rejette des personnes sur des critères qui sont totalement fallacieux.
Merci Cédric Levieux. Voici venu donc le temps, le moment de votre carte blanche, Anne Bourguignon. Je vous propose de commencer et de nous dire pourquoi vous voulez être députée. Enfin, votre carte blanche,
c'est ça. Carte blanche, je vais plutôt parler du courant dont je me revendique, dont nous nous revendiquons à Lutte ouvrière, du communisme révolutionnaire. C'est un courant certes minoritaire, mais qui est issu d'une longue filiation du mouvement ouvrier et de toutes les luttes qu'il a menées pour arracher des droits, pour arracher des conditions de travail, pour arracher la journée de 8 heures, empêcher le travail des enfants. On peut parler aussi de 36 où on a réussi à obtenir des congés payés, les semaines de 40 heures, etc. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette année, on célèbre le centenaire de la Révolution russe, dont nous nous revendiquons, qui a vu entrer sur la scène des ouvriers, des paysans et des soldats. Et ils ont arraché le pouvoir aux mains d'un pouvoir féodal. Et leurs exigences, c'était le pain, la paix et la terre à ceux qui la travaillent. Et ce drapeau a embrasé l'ensemble de la planète. Et ceux-là, ce sont les nôtres. C'est eux qui ont fait vivre ces idées-là. Et depuis que le capitalisme existe, les travailleurs doivent se déplacer. Ils doivent aller chercher du travail. La classe ouvrière ne connaît pas de frontières. Et c'est pour ça qu'elle est socialement internationaliste. Et nous ne pouvons porter d'autres drapeaux que celui de l'internationalisme. Et j'aimerais dire que tous nos ennemis érigent des frontières entre nous. Et que à Lutte ouvrière, nous revendiquons la régularisation de tous les sans-papiers, qu'ils aient un contrat de travail ou non. Plus un seul migrant ne doit perdre la vie en fuyant la famine, l'obscurantisme ou la guerre. Et il faudra des luttes collectives, des luttes d'ensemble pour que les exigences du monde du travail, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, un salaire à minimum 1 800 euros et le contrôle des grands groupes bancaires et commerciaux.
Merci, Anne Bourguignon. Cédric Levieux, c'est à vous pour conclure.
Alors pour conclure, en introduction, oui, tout à l'heure en introduction, on parlait open bar. Alors j'ai l'impression que on faisait peut-être référence un petit peu à la culture, parce qu'on est effectivement pour.
Vous êtes pour le partage.
Exactement, on est pour le partage. On considère que la culture est aussi un bien commun. Alors on se dit pas communiste, mais communiste parce que c'est ce qu'on appelle les commons en anglais. On est pour un certain nombre de partages et c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. On a l'écologie, on a la sécurité, on a un certain nombre de choses qui sont anxiogènes. La culture, par contre, c'est ce qui nous permet de partager des choses. Alors c'est la culture et c'est le savoir. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui empêchent véritablement l'accès à la culture, l'accès au savoir. On prend n'importe quelle personne, elle a un budget défini au niveau du mois parce qu'elle a un salaire aujourd'hui. À un moment donné, quand elle doit choisir entre l'accès à la culture et manger, elle oublie la culture. Et effectivement, le fait de partager la culture et le savoir, c'est permettre d'enrichir les personnes qui aujourd'hui n'auraient pas les moyens de s'enrichir. C'est permettre une élévation, une prise de conscience. Et si on dit vous n'avez pas assez de connaissances pour décider de quoi que ce soit, non. Quand on a l'accès au savoir, quand on accepte de partager les choses, on peut s'élever et décider pour soi.
Merci, Cédric Levieux. Élodie Montemont, c'est à vous votre carte blanche.
Pour conclure, déjà j'inviterai chacune et chacun à se rendre sur le site upr.fr pour pouvoir consulter de façon exhaustive le programme qui est très très long. Ici, j'ai pu donner qu'un aperçu. Au final, il y a plus de 200 mesures, donc j'invite chacun à aller le consulter. D'ailleurs, c'est le site politique le plus consulté. Juste un petit point, on est le parti qui présente le plus de candidats sur ce scrutin. On est présent dans 574 circonscriptions. Et puis enfin, j'ai envie d'inviter chaque citoyen, chaque citoyenne à aller voter dimanche et surtout de ne pas écouter ceux qui leur conseillent et qui leur susurrent à l'oreille quel est le vote utile. Il n'y a pas de vote utile si ce n'est celui qu'on fait par conviction. Donc voter UPR, c'est aussi le seul moyen de défendre la démocratie, la souveraineté et l'indépendance de la France.
Merci Élodie Montemont. Frédéric Javalon, c'est votre carte blanche à vous et c'est vous qui conclurez donc cette émission.
Eh bien, je vous remercie. C'est un exercice toujours difficile, j'ai envie de dire, de conclure. J'ai envie de dire que mon engagement se situe dans la volonté d'apporter un renouveau en politique parce que je pense que l'urgence est d'abord démocratique. Il nous faut redonner au peuple effectivement les clés de son destin, ne pas le laisser entre les mains de professionnels de la politique qui depuis 20 ans n'ont rien fait et qui ne feront rien puisqu'ils ne font que cumuler les uns et les autres des mandats. Et comme je le disais au cours de cette émission, à force de vouloir être partout, on finit par être nulle part. On ne peut pas être au four, effectivement, et au moulin. Alors la France qui ose, c'est un jeune mouvement, un mouvement centriste, humaniste, fédéraliste, qui regroupe des gens de tous horizons. Ce sont 250 mesures également que nous proposons au niveau national. Nous avons 350 candidats partout en France qui représentent notre mouvement. Et c'est un mouvement qui s'intéresse et qui a vocation à s'occuper justement, comme je le disais, de la France des oubliés et de la République des périphéries. On parle effectivement de l'outre-mer, c'est aussi la France des périphéries. On parle de tous ces citoyens qui sont les oubliés de la République et que nous voulons remettre effectivement au cœur du débat. Nous pensons également à la France qui ose que nous devons co-construire un projet de société. Ça n'est assez de ces élus qui se prennent pour des super sachants parce qu'ils ont une bandelette tricolore, j'ai envie de dire, autour du cou. Il y a effectivement des choses à construire avec les territoires, dans les territoires, en application d'un principe qui est le principe de subsidiarité. Donc la France qui ose, ce jeune mouvement, eh bien avec audace, souhaite avec l'ensemble des Tarn-et-Garonnais qui le souhaitent et de l'ensemble de nos concitoyens être des bâtisseurs pour faire rayonner notre territoire. Et puis sans aucun état d'âme, eh bien je dirais que si jamais demain je suis élu, sans aucune difficulté, j'apporterai mon soutien au gouvernement s'il fait des propositions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et dans le cas contraire, nous devrons être force de proposition et proposer des projets alternatifs. Soyons très clairs, sur la deuxième circonscription, et j'ose être nominatif, Sylvia Pinel n'est pas et ne sera jamais une marcheuse. Bien loin d'incarner le renouveau de la politique, elle représente un système obsolète qui nie le pluralisme démocratique et nourrit l'aristocratie politique. Non au cumul des mandats, oui à un renouvellement, et non à ces élus qui font de la politique de manière professionnelle, en niant le pluralisme et en niant effectivement la France des périphéries et en laissant des Français sur le bord du chemin.
Merci Frédéric Jean-Vallon, merci à vous quatre, merci donc à Anne Bourguignon, Lutte ouvrière.
Merci.
Frédéric Jean-Vallon, donc la France qui ose, Cédric Levieux du Parti Pirate, et enfin Élodie Montemont, Union Populaire Républicaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en cas de débat consacré aux élections législatives. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aller voter dimanche 11 juin.
Merci Kader, à la semaine prochaine. Donc on l'espère aussi avec des débats de l'entre-deux-tours. Je rappellerai que tous ces débats, vous les retrouvez aussi en podcast sur cfmradio.fr. Belle soirée, CFM, les 19h05, avec un petit peu de retard, c'est le Flash Info Sport.